Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour. Je reçois aujourd'hui Daniel Talamoni, bonjour.
Bonjour Myriam.
Donc vous êtes trois en fait, hein, Fleur, Béatrice, Daniel. Racontez-moi un peu cette histoire de triptyque.
Alors triptyque est né d'une idée assez simple. Hein. C'est une idée qu'après une trentaine d'années passées dans l'aménagement et quelques années dans la promotion, une idée assez simple que sur le périmètre de la maîtrise d'ouvrage, il fallait pouvoir aider les élus à pouvoir concevoir sur le périmètre de la maîtrise d'ouvrage, hein, pas le périmètre réglementaire, pouvoir les aider, les conseiller sur les choix quand ils sont en face d'opérateurs, d'aménageurs, de promoteurs, avec des impacts financiers, techniques, et c'est pas leur spécialité de pouvoir comprendre ces
éléments. Alors, c'est pas leur spécialité, évidemment, mais ils ont des services, ont des élus affectés, et ils ont des services qui, normalement, sont des sachants. Donc, comment faites-vous la part des choses entre les services, l'aide aux élus, pour trouver un juste équilibre, surtout en ce moment?
Oui, alors, difficile de trouver un juste équilibre. D'abord, les grandes villes sont équipées, hein, les villes qui sont... de grande taille sont équipées avec des gens qui viennent de toutes les obédiences. En revanche, les villes moyennes, elles ne sont pas équipées. Et elles ont des directeurs généraux, des directeurs de l'urbanisme, etc., qui rarement ont fait de la maîtrise d'œuvre, qui ne savent pas ce que c'est qu'un contrat de maîtrise d'œuvre, un bilan de promotion.
C'est-à-dire, vous décryptez le bilan de promotion, par exemple, en expliquant à monsieur le maire ou à madame le maire qu'on pourrait faire mieux, par exemple?
Bah, en tout cas, en expliquant à monsieur le maire quelles sont les marges de manœuvre qu'ils peuvent ou pas utiliser. Et à partir de quel moment, la difficulté pour un élu, c'est de savoir à quel moment il est plus dans la négociation, jusqu'où il peut aller trop loin.
Qu'est-ce qu'il peut imposer
et jusqu'où il peut aller trop loin.
Aujourd'hui, si je puis me permettre, les élus imposent le fait de ne pas construire. Alors, sans faire de provocation et sans rentrer dans un sujet qui est un petit peu touchy en ce moment, comment fait-on justement, c'est quoi l'ADN de Triptyque pour convaincre les élus, pour convaincre les services, vos clients, quelque part, de pouvoir construire tout en étant réélu sans avoir peur, hein.
Alors, il y a plusieurs
axes. Ça fait sourire, mais il y a des choses importantes.
En tout cas, il y a une question qui est assez sûre, c'est que il y a quelque chose qui nous paraît assez sûr, c'est qu'il faut rentrer dans l'intimité des élus pour savoir quelles sont les questions réellement qui se posent. Qu'est-ce qui fait qu'une majorité va être ébranlée? Quelles sont les questions qui se posent réellement sur une opération? Est-ce que c'est des questions essentielles ou totalement secondaires? Est-ce qu'ils ont bien compris la position ou pas des opérateurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent négocier? Quel est le moment où ils peuvent rentrer en discussion avec leur population? Qu'est-ce qui leur fait peur?
Vous les aidez aussi sur la concertation?
On les aide en fonction d'un planning des tâches, d'une feuille de route, à discuter avec eux sur quels sont les moments opportuns pour pouvoir discuter avec leurs concitoyens. Notre objectif n'est pas de leur dire comment ils doivent discuter, mais plutôt à quelle étape il nous semble nécessaire de pouvoir discuter. Et quels sont les arguments qu'ils peuvent ou pas mettre en œuvre en fonction de leur angoisse à eux.
Alors, on sait aujourd'hui que la ville horizontale a pu grand espoir de vivre vraiment, elle vit ses dernières heures, hein, ou pas, ça dépend un petit peu où on se trouve, si on se trouve en état de densité, on va dire réduite, on peut quelque part essayer de construire un petit peu plus, et c'est vrai qu'en Île-de-France, on a quand même des tensions extrêmement importantes. Comment faites-vous justement pour ces villes de 10 000, 15 000, 20 000 habitants pour convaincre, hein?
Alors, je pense qu'il y a des sujets qui sont extrêmement simples. C'est par exemple, on travaille sur des opérations qui sont des opérations en moyenne de 400-500 logements sur lesquels on est conseil aux élus. Et la première chose qu'il faut faire, c'est scander une manière de se voir sur l'opération. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on se voit tous les 3 semaines, tous les 4 semaines. Ça veut dire
pour avoir le temps de réfléchir entre deux.
Pour avoir le temps de réfléchir entre deux. Ça veut dire qu'il faut au maximum avoir des discussions sur les différentes dimensions de l'opération, pouvoir les expliquer, les comparer, les évaluer, aller chercher d'autres exemples ailleurs qui ont été faits pour rassurer les majorités, les bureaux municipaux, pour pouvoir travailler avec la population. Et ça se fait en scandant les réunions. Si par exemple on prend des exemples qui sont des exemples d'opérateurs, quand un opérateur par exemple va voir un élu en disant j'ai acheté un terrain, je peux faire 500 logements, qu'est-ce qui se passe en règle générale? Bah, en général, il vient avec... D'abord, il fait peur. En règle générale, il vient avec un résultat.
Ouais, un plan qui est déjà fait.
Un plan masse, un programme. un bilan. Enfin,
il dit voilà ce que je dois faire pour pouvoir m'en sortir.
Voilà ce que je dois faire pour pouvoir m'en sortir. Voilà ce que je dois faire par rapport au chèque que j'ai fait dans ma promesse de vente. Et évidemment, toutes les dimensions, qui sont les dimensions, soit la taille de l'opération, soit les impacts de l'opération, soit les besoins en équipement public, qu'est-ce que fait l'élu en règle générale, dans les villes de taille moyenne, il fait, écoutez, c'est très intéressant, et il revoit l'opérateur 6 mois après.
Ouais.
Et les opérateurs ont beaucoup de mal à rentrer dans l'intimité des élus qui, en fait, font des pas en arrière à chaque fois et ne répondent pas aux questions.
Non, mais est-ce que c'est quand même parce qu'il y a une manière de faire aujourd'hui, cette manière-là, qui est un petit peu intrusive et aussi avec des services, des élus qui, quelque part, ont l'impression qu'on fait le boulot à leur place et donc ça leur plaît pas trop?
Alors ça leur plaît pas trop, et puis ces deux mondes qui sont totalement opposés. Il y a un monde qui est encore fondé sur les droits réels et qui chaque année va dire combien j'ai signé de promesses de vente, à combien je suis coté à la bourse.
Et combien je dois construire.
Ouais. Et combien je dois construire. Mmh. Et ça impose une espèce de rapidité, une espèce de deal.
Bien sûr.
Qui va être une espèce de volonté d'aller rapidement. Et de l'autre côté, on a des élus qui sont dans une situation où ils reflètent leur population. Et il reflète quoi ? Il reflète le désir de probablement pas construire, en tout cas pas construire comme ça, pas construire aussi vite, pas construire de cette manière-là, pas construire sans concerter, pas construire sans prévoir. Donc là, il y a beaucoup de questions et ces questions demandent du temps.
Oui, mais prévoir et concerter, ça veut dire aussi un certain nombre de réunions. Et c'est vrai que souvent, la population, elle est soit très participative, très contre, ou très participative, ou sinon il y a des réunions publiques avec 3 retraités, une mère de famille, non mais je fais exprès évidemment de caricaturer. Comment fait-on pour inciter la population à dire vraiment plutôt que à revendiquer sur les réseaux sociaux telle ou telle opinion contre?
Alors moi je suis assez persuadé que le fait que les populations s'intéressent à l'environnement, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise
nouvelle.
Je suis assez aussi persuadé que il faut aller rencontrer les populations, les résidents, les riverains, le plus tôt possible, pour être capable de structurer leurs questions, savoir à quoi on doit répondre. Je suis aussi assez persuadé que il faut donner les marges de manœuvre dont on dispose pour pouvoir faire un projet.
Bien sûr.
Je crois que quand on... C'est assez
C'est-à-dire
rare.
C'est-à-dire le curseur entre...
Le curseur entre ce qu'on est capable de faire, ce qui est soutenable, combien ça coûte. Est-ce qu'on aura des recettes, pas des recettes? Est-ce qu'on va augmenter les impôts? Je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle et je pense qu'il faut faire confiance aux populations pour pouvoir travailler.
Est-ce que le problème n'est pas aussi les équipements? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus disent non, nous, on aimerait bien faire 200, 300, 400 logements parce qu'effectivement, on a la population qui tape à la porte et qui a besoin de logements. Par contre, on n'a pas l'argent pour faire les écoles. Ça, c'est quand même une phrase entendue partout. Comment fait-on justement pour aider ces élus à pouvoir financer des écoles?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses. En tout cas, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a une première question qui est combien ça coûte? Et normalement, si on a bien cadré sa politique fiscale et le développement immobilier, normalement, l'immobilier doit permettre de pouvoir...
D'accord. Et quand on est un nouvel élu?
Alors, quand on a un nouvel élu, la vraie difficulté, elle est de deux ordres. Cette question qui est la question du financement, et la deuxième question, c'est la question de la réalité de ce qu'on est capable de faire. Dans les villes moyennes, par exemple, même si effectivement le développement paye les équipements publics, ils sont pas capables de les faire. Ils sont pas capables d'acheter un terrain, ils sont pas capables de lancer une maîtrise d'œuvre, ils sont pas capables de faire une école. Parce qu'ils ont perdu la maîtrise d'œuvre depuis bien longtemps. L'acte de construire n'existe plus dans les collectivités locales. Ou très peu. Sauf, encore une fois, dans les grandes collectivités.
Oui, mais ils ont encore la responsabilité de faire les écoles.
Oui, absolument. Et ça aussi, ça doit être pris très très en amont. C'est-à-dire qu'on peut pas, décorréler un opérateur qui propose une opération avec un certain nombre de logements de la capacité à pouvoir étudier. Quelle va être la réponse technique?
D'accord, mais là, en ce moment, les élus, ils commencent un mandat, on va dire, avec une année et demie de retard, parce que évidemment, il y a eu le confinement, il y a eu la pandémie, donc quelque part, leur mandat, il est décalé, et ils doivent, en gros, à leur loge près, en 4 ans, faire des logements, des écoles, des machins, et ils viennent d'arriver, et ils savent pas, et comment fait-on? Puisque c'est vous qui êtes censé leur amener l'aide.
Alors, vous voyez bien que dans votre question, il y a déjà une partie des réponses. Il faut réussir à travailler de manière scandée avec les élus, réussir à avoir du temps avec le service, réussir à poser les questions. ils sont quand même dans un, ils sont globalement dans une course à l'immédiateté.
Bien sûr.
Donc ils ne disposent pas de temps. De temps pour pouvoir réfléchir à l'impact d'un projet, à l'impact d'un projet, ni même aux tâches qu'il faut mettre en œuvre. Donc il faut, nous, notre job consiste à, principalement, à les obliger à se mettre autour de la table de manière scandée. Toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, si on ne peut pas les réunir toutes les 3 ou 4 semaines avec leur service, on ne prend pas les contrats. Ça veut dire que si on ne peut pas réfléchir...
Donc c'est donnez-nous du temps et on vous aide.
Oui, parce que seul le temps permet de travailler sur quelque chose. C'est pareil pour tous les sujets. Qu'on veuille faire du vélo, qu'on veuille apprendre la musique, etc. Il faut disposer de temps. Et si on ne dispose pas de temps, ou si on ne veut pas y consacrer du temps, ce qui peut être aussi une stratégie, impossibilité de pouvoir, en tant que technicien, amener des réponses ou amener des capacités à pouvoir envisager les impacts.
Alors, on a comme ça cette envie de faire confiance à Triptyque. Triptyque, c'est une c'est 3 personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des 2 autres personnes qui sont pas là aujourd'hui, parce que quelque part elles font partie de l'ADN de la société?
Absolument, on est associés, donc les trois personnes qui sont associées, c'est d'abord des personnes qui ont travaillé et dans le privé et dans le public, parce qu'il fallait pouvoir avoir aujourd'hui l'aménagement et l'urbanisme, c'est évidemment complètement très stressé et stressant d'ailleurs. Donc ces 2 personnes ont un parcours qui était, alors pour Bérénice Delpeuche, un parcours qui était directrice de programme chez Constructa, et puis ensuite qui a fait de l'aménagement avec moi, et pour Fleur Babinet, un parcours qui était un parcours dans le public et qui a été pendant une petite dizaine d'années directrice de développement chez ICAD. Donc personnes qui connaissent et l'aménagement et les opérations privées.
Alors, on a effleuré quand même certains sujets. Si vous en êtes d'accord, Daniel Talamoni, 2e interview, histoire de débroussailler un petit peu plus les choses et aller au fond. Qu'en pensez-vous?
Absolument.
Bon, à bientôt, chers auditeurs.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseils,